à 75%. Là-dessus, il y a eu des réactions et d'autres candidats ont dit mais c'est une spoliation, c'est pas possible. Enfin, on ne peut pas rendre 75% des revenus à des personnes, c'est inimaginable, c'est scandaleux. C'est, voilà. Et on a parlé de ça, mais on n'est pas trop entré dans le détail de toutes ces taxations. Et donc, nous qui disons depuis des années qu'on arrive à taxer l'immobilier de manière très forte, on a dit bon, on va réagir à ça, on va réagir de plusieurs façons. Les messages que l'on a à faire passer, d'abord, le président de la République nous a déclaré il y a quelques jours qu'il venait de découvrir que des très grandes sociétés ne payaient pas d'impôts. Alors, moi je voudrais aussi lui faire découvrir que des petits propriétaires payent beaucoup trop d'impôts. Et sans doute qu'il a besoin d'ouvrir les yeux et j'espère que dans ce qui sera dit, que quand il étudiera le dossier, que quand il lui sera transmis, que quand il lira un peu la presse, il verra que ce que l'on dit est la vérité. Ça, c'est le premier point que je voudrais faire passer. Beaucoup trop d'impôts pour les petits propriétaires. Le deuxième point, c'est qu'il semblerait que dans la tête du gouvernement, on assimile revenu immobilier à revenu financier. Ce qui est une erreur grave. On ne peut pas comparer. Et alors, comme au gouvernement, on s'est joué sur la dialectique, rappelez-vous quand on nous a dit pour les plus-values, on va taxer les plus-values sur les résidences secondaires. Je ne sais pas, quand on me dit résidence secondaire, je pense à la mer, à la montagne. Je ne savais pas qu'il s'agissait a priori des résidences locatives, entre autres. Donc on voit bien que la façon de formuler les choses, elle est toujours un peu discutable. Et là, depuis quelque temps, et notamment sur la dernière loi de finances rectificative qui a été votée, on nous a dit on va plus taxer les revenus financiers. Moi, quand on me dit revenus financiers, j'ai tendance à penser à tout, obligations, éventuellement contrat d'assurance vie ou autre. Je ne pense pas forcément à loyer. Mais dans la tête de ceux qui disent on va plus taxer les revenus financiers, ils pensent aussi loyer. Et quand on regarde les revenus des loyers, on s'aperçoit que ce n'est pas comparable à des revenus financiers et même pas comparable à des revenus salariaux. Puisque la deuxième idée qui est développée par le gouvernement, c'est de dire, oh là là, les salaires payent trop de cotisations, donc il faut transférer les charges sur les revenus financiers et libérer les revenus salaires. Donc on a essayé, dans l'étude qui va vous être présentée, de dire, voilà, d'abord, qu'est-ce qu'un revenu immobilier ? Qu'est-ce qu'un revenu financier ? Qu'est-ce qu'un revenu de salaire ? Et comparons. On compare. Alors, il y a des éléments qui ne sont pas des éléments de fiscalité directe. On compare simplement quand on a une somme de revenus. Alors, on peut prendre 5 000 euros, 10 000 euros, 20 000 euros, ce que vous voulez. Quand on a une somme de revenus, si elle provient de salaire, combien il reste dans la poche du salarié ? Si ça provient de revenus financiers, combien il reste dans la poche du salarié ? Et si ça provient de loyer, loyer encaissé, combien il reste dans la poche du propriétaire ? C'est-à-dire que nous sommes partis d'une approche équilibrée, dans tous les domaines, en partant du revenu brut et le revenu net dans la poche. Pour donner un exemple, si j'ai un livret de caisse d'épargne, alors Soulier ce matin me disait « oui, mais c'est tellement des petites sommes ». Oui. Quand il y a 3-4 personnes dans la famille et puis qu'on a des livrets dans plusieurs établissements, ça finit par faire des petites sommes. Mais je veux dire simplement, si on a un livret de caisse d'épargne, quand on encaisse un intérêt à 2, 2,50, je ne sais pas combien il est, 2,75, bon, je suis en train de discuter. Donc quand on encaisse 2,50, je veux dire, on a 2,50 dans la poche. 2,50 qu'on peut aller dépenser. Quand on a des revenus d'action, on a le dividende qui est payé, on a la possibilité d'un prélèvement forfaitaire, hein, que vous connaissez, et le reste, c'est dans la poche, on peut aller dépenser. Quand on a des salaires, on a un salaire brut, il y a des cotisations sociales qui sont retenues, ça donne un salaire net. Quand on a payé l'impôt et la CSG sur son salaire net, ce qui reste, c'est dans la poche. Quand on a des loyers, on a le loyer brut, on a un certain nombre de dépenses obligatoires qui viennent s'imputer sur ce loyer. Par exemple, les taxes foncières. C'est-à-dire, quand vous avez un loyer, vous êtes propriétaire. Quand vous êtes propriétaire, vous payez des taxes foncières. Alors, je sais bien que M. Sarkozy pourra me dire, oui, mais les taxes foncières, c'est pas dans la fiscalité nationale. OK. Sauf que le propriétaire qui paye ses taxes foncières, je veux dire, il donne de l'argent qu'il a encaissé en loyer. Donc, ce que nous avons fait pour les revenus de loyer, nous avons dit, voilà, il y a le loyer brut, hein, comme les dividendes, comme les salaires, voyez-vous. Il y a les dépenses obligatoires qui nous sont mises obligatoirement à charge par l'État. Quand on vous dit, bah, il faut faire des diagnostics, c'est la loi. Alors, je sais bien que les diagnostics, c'est pas un impôt. Mais les diagnostics, c'est de l'argent qui ne va pas dans la poche du propriétaire, puisqu'il a ses loyers, puis il paye ses diagnostics, comme il paye ses taxes foncières. Donc il y a un certain nombre de dépenses obligatoires qui viennent s'imputer sur les loyers. Donc, ce que nous avons fait, nous avons pris le loyer, nous avons enlevé les dépenses obligatoires, c'est-à-dire les dépenses qui nous sont mises à charge par la volonté du pouvoir public, on a enlevé ça, et donc il nous reste un revenu net, mais comme on pourrait dire, il y a un salaire net, après, un salaire brut qui a subi des charges sociales. On est d'accord. Il y a un revenu net qui arrive pour le propriétaire. De son revenu net, le propriétaire, ben, il paye l'impôt sur le revenu, il paye la CSG, il paye éventuellement l'ISF, et puis après, il regarde ce qu'il a dans sa poche. Et donc, aujourd'hui, nous sommes en mesure d'affirmer, et on va le démontrer, que lorsqu'un propriétaire encaisse une somme de loyer, quelle qu'elle soit, ce qui reste dans sa poche s'il ne paye pas d'ISF, et on a pris un taux d'imposition moyen à 30%. Donc, s'il ne paye pas d'ISF, il lui reste dans sa poche 25% de ses loyers. C'est pourquoi je dis la taxation à 75%, c'est déjà fait. Et M. Barouin, qui se choque de dire certains candidats imaginent qu'on pourrait prendre 75%, pour les propriétaires, 75%, c'est monnaie courante. Entre le loyer brut, hein, le loyer de leur bien, et ce qui leur reste en net dans leur poche. Et si jamais ils payent l'ISF, on arrive à zéro, c'est-à-dire qu'il leur reste rien. Il n'y a aucun cas, et je vous ai mis les comparatifs entre les revenus d'action, entre les revenus de salaire, il n'y a aucun cas, aucun autre cas de revenu où on arrive à zéro. Ça n'existe pas. Donc quand j'entends dire il faut rééquilibrer la fiscalité, il faut que le capital paye au moins autant que le travail. Mais attendez, il y a longtemps que le capital immobilier paye plus que le travail. Donc, vouloir appliquer aux revenus fonciers les mêmes fiscalités, les mêmes modifications qu'aux revenus financiers, c'est une erreur grave. Une erreur que soit les gens ne veulent pas connaître, là, ça va être embêtant pour les personnes de la vie, soit qu'ils ne connaissent pas. Et j'espère que ce que fait l'UNPI va leur faire comprendre qu'à un moment donné, il faut arrêter. Alors, vous allez voir les chiffres, hein, on va les regarder un par un. Derrière, on peut dire, mais c'est de l'argent dormant, c'est de l'argent qui n'est pas dans le circuit économique. Non, je rappelle que les propriétaires font des travaux. D'ailleurs, pour ceux d'entre vous qui étaient à Clameur l'autre jour, le 6 mars, vous avez vu que 37% des logements qui sont reloués bénéficient de travaux. Donc c'est quand même énorme. Vous savez qu'on loue à peu près, les privés, 1 600 000 logements par an, par rapport au parc public qui en loue à peu près 450 000. Donc nous, on loue à peu près 1 600 000 logements par an. Je veux dire, c'est des logements dans lesquels on fait des travaux presque 1 sur 2. C'est une activité économique phénoménale. D'ailleurs, le président de la Fédération française du bâtiment a indiqué en préambule de la conférence de presse que maintenant il y avait une évolution dans la constitution de leur chiffre d'affaires puisque les travaux d'amélioration, de rénovation avaient maintenant dépassé la barre des 50%, hein, avant ils étaient plutôt à 30, maintenant plutôt à 50 et qui sont en constante progression. Et on voit bien donc que demain, si on veut soutenir l'activité économique dans le bâtiment, il faut peut-être plus regarder du côté de l'amélioration du parc, de l'amélioration de la qualité énergétique, de l'amélioration de la qualité de vie dans le parc, plutôt que d'aller donner des systèmes incitatifs pour construire des logements là où il n'y en a pas besoin. Donc on voit bien que même si on prend ça d'un niveau macroéconomique, en disant l'activité économique du pays, on s'aperçoit qu'il y a largement à faire dans le parc existant par rapport à la construction du neuf. Alors c'est vrai que ça peut bousculer quelques entreprises, ça peut les faire changer de méthode, mais je suis persuadé que c'est plus facile à faire des travaux qu'à construire ou qu'à vendre. Par ailleurs, pour les entreprises, si elles travaillent pour des propriétaires de logements, elles sont à peu près sûres d'être payées, hein, parce que celui qui a un logement qui vaut 200 000 euros, si c'est 50 000 euros de travaux, on va bien sûr arriver à le faire payer. Et alors c'est une gestion peut-être un peu plus délicate, un peu plus difficile, mais de sûr, c'est la certitude d'être payé, la certitude d'avoir une activité, et avec un marché phénoménal, 33 millions de logements en France, il y en a bien au moins la moitié pour lesquels il y a des nécessités de travaux, ça veut dire qu'il y a un foyer de 15 millions de logements minimum sur lesquels il faudra mettre au moins 50 000 euros. Donc regardez, cette manne financière d'activité économique qui se profile pour les entreprises du bâtiment, donc ils n'ont vraiment pas trop de quoi se faire de soucis. Si on dit, c'est pas la peine de construire tant, et c'est pas la peine de s'appeler autant. Alors après, quelle est la situation pour les locataires? Eh bien, plus on va taxer les revenus fonciers, plus les propriétaires qui ont des biens, s'ils peuvent les louer plus cher, ils essaieront de les louer plus cher, parce qu'ils vont essayer de rattraper cette fiscalité. Certains qui ne pourront pas louer plus cher vont complètement se décourager et donc ne vont pas louer leur logement. Et d'autres encore n'investiront plus dans l'immobilier, partant du principe que c'est trop cher, qu'il y a trop de fiscalité, qu'il n'y a plus de rentabilité. D'ailleurs, un de vos confrères a sorti une étude où 66% des propriétaires disent qu'ils ne veulent plus investir dans l'immobilier. Donc on voit bien qu'on est en train de décourager des gens. Et à terme, pour les locataires, ça fera quoi? Ben, moins d'offres. Donc plus de difficultés à se loger, sûrement des prix qui n'évolueront pas comme ils auraient pu évoluer, c'est-à-dire avec une stabilité ou une légère baisse dans certains secteurs, et donc moins de mobilité, et donc des gens qui ne pourront pas faire un parcours résidentiel. Donc on voit que cette politique de taxation à outrance, c'est mauvais dans un premier temps pour les propriétaires, c'est vrai, mais c'est mauvais dans un deuxième temps pour les locataires et pour les candidats à l'accession. Donc vraiment, on n'arrive pas à comprendre et on voudrait que l'État considère que les revenus immobiliers ne sont pas des revenus financiers, ne peuvent pas être comparés d'une manière brute, et donc brutale, mais qu'ils doivent être un peu décortiqués. Alors si on décortique maintenant, on va y aller, tableau par tableau, et si vous avez des questions, allez-y gaiement, on peut se tromper, donc si on s'est trompé, on est prêt à corriger, à rectifier, à améliorer. Alors, le tableau numéro 1. Le tableau numéro 1, on a pris un revenu locatif. Je ne vais pas projeter, moi je vais faire en suivant. C'est ça, ouais. On projettera les synthèses. Alors, ça va. Donc, c'est page 5. Donc, le tableau numéro 1, on prend un revenu locatif à loyer de 10 000 euros. On a dit on tient compte d'une vacance, mais ça ne joue pas la vacance, puisque ce qui compte, c'est l'argent qui rentre dans la poche du propriétaire. Donc un propriétaire qui, pour un bien, encaisse 12 000 euros de loyer. Il a ses frais de gestion et d'assurance, 10%, ça fait 1 200 euros. Sa taxe foncière, on a pris un peu plus d'un mois de loyer, 1 800 euros. Ses travaux obligatoires, 1 200 euros. Ses charges de copropriété non récupérables, 600 euros. Donc il a un total de charges de 4 800. Cet argent-là, ça ne va pas dans sa poche, puisqu'il paye à divers personnes. Donc son revenu foncier imposable, c'est le revenu brut moins toutes ses charges qu'il peut déduire, donc c'est 7200. On a pris son taux d'imposition à 30%, ça fait 2160. Ses prélèvements sociaux à 15,5, ça fait 3276. Donc son revenu net annuel après impôt, 3900 euros. S'il paye l'ISF, on a pris 0,25, pas encore 750 euros, il arrive à 3000 euros. Je veux dire, dans ce cas-là, l'ISF, on pourrait encore beaucoup discuter sur le taux qu'on a mis, parce que vous savez comment ça marche, l'ISF maintenant, moins d'1 300 000 on ne paye pas, plus d'1 300 000 on paye 0,25, depuis le premier euro, depuis le premier. Ce qui fait que quelqu'un qui passe de 1 300 000 à 1 400 000 ou 1 500 000, il ne paye pas 0,25 sur le surplus. Il paye 0,25 sur la totalité de son patrimoine. Donc on ne peut pas dire qu'il y ait quelqu'un qui ne paye que 0,25. C'est plus. Mais pour la simplicité du calcul, on n'a pris que 0,25. Donc vous voyez que dans cet exemple-là, qui est l'exemple le plus bas, les revenus, donc la dernière ligne, les revenus du propriétaire, c'est 26% ce qu'il a dans sa poche, c'est 26% du loyer qu'il a fait payer à son locataire. Soit dit en passant, on voit bien que quand il y a des loyers élevés, ça profite à beaucoup de monde, mais ça profite pas tant que ça au propriétaire. Puisque chaque fois que mon loyer augmente d'un euro, il y a 25 centimes pour moi, mais il y a quand même 75 centimes pour les autres. Donc, je veux dire, quand certains, même le gouvernement, se choquent de la hausse des loyers, on se demande s'ils se choquent vraiment profondément de la hausse des loyers ou s'ils ne se réjouissent pas qu'il y ait une hausse des loyers. Le cas numéro 2. Le cas numéro 2, donc on est parti avec la tranche d'imposition maximale, c'est-à-dire à 41%, tranche d'imposition maximale aujourd'hui. Puisque certains candidats en annoncent une à 45, d'autres en annoncent une même jusqu'à 50, et on peut peut-être même aller jusqu'à 75. Donc si on fait exactement le même calcul, vous voyez que le revenu net imposable, après impôt, on est à 1600 euros, on est à 13% dans la poche du propriétaire. 13% de ses loyers. 12 000 euros de loyer encaissé, 1600 euros dans sa poche. Ce n'est pas l'image qu'on en a de manière habituelle. Si on prend l'exemple 3, là, on a pris avec un ISF majoré, puisqu'on a pris dans la deuxième tranche d'ISF. Alors là, cette fois-ci, on est à 11,80 dans la poche du propriétaire. Mais c'est la tranche d'ISF à 0,50. Donc c'est des gens qui ont un certain patrimoine. Quoique 0,50, c'est 3 millions d'euros. Hein. 3 millions d'euros à Paris, c'est pas non plus 25 logements. Hein. C'est beaucoup moins. Après, on continue, on a pris avec le taux d'imposition 45%, donc ce qui serait éventuellement créé par certains candidats, avec un ISF à 0,50, et là, on s'aperçoit qu'il reste 9%. Et c'est des cas possibles, des cas vérifiés. Et puis alors là, on arrive au summum, c'est-à-dire que si on prend un ISF à 1%, comme certains veulent le rétablir, au cas numéro 5, on est à moins 372 euros, c'est-à-dire que le propriétaire va donner de l'argent pour pouvoir louer son logement, 12 000 euros par an. Vous comprenez qu'il y a des gens qui peuvent laisser le logement vide. C'est quand même des cas qui peuvent exister, puisqu'on nous parle de rétablir l'ISF tel qu'il était avant. Dans tous les cas de cause, ça arrivait les années précédentes, puisque l'ISF était à ce taux assez rapidement. Alors, on a fait ensuite un petit tableau récapitulatif hein, pour que vous puissiez regarder. Donc, c'est le ratio total des impôts par rapport aux revenus fonciers. Vous voyez, 56%, 77%, 80%, 84%, 105%. La rentabilité nette, alors je vous parlais tout à l'heure de la caisse d'épargne, ben celui-là il est projeté, voilà, c'est formidable. Donc la rentabilité nette, on passe de 1% dans le meilleur des cas à moins 0,12%. C'est quand même pas mal. Et puis le revenu net en pourcentage des revenus bruts, 26%, 13%, 11%, 9%, 0%. Je veux dire, c'est quand même des interrogations. Et je suis persuadé que lorsque des vendeurs de biens immobiliers, des vendeurs à des investisseurs font leurs propositions, je suis persuadé qu'ils n'intègrent pas tout ça. Et quand on entend des gens acheter des logements, c'est dans l'immobilier, on entend facilement un propriétaire, nouveau propriétaire, dire « Oh, j'ai acheté un truc, là, ça me fait 500 euros de loyer par mois, ça fait 6 000 euros par an, bon, je paye 2-3 impôts, 2-3 machins, mais ça me reste quand même pas mal. » Oui, et bien, s'il fait le vrai calcul, et si encore il intègre la vacance, vous avez vu dans Clameur que la vacance, c'est quand même 9 semaines entre deux locataires, en moyenne nationale, si on intègre encore la vacance, quand c'est vacant, on n'encaisse pas de revenus. Et quand c'est vacant, on paye quand même les charges de copropriété. La totalité des charges de copropriété, on ne paye pas celles qui reviennent au propriétaire. On paye celles qui reviennent au propriétaire, plus celles qui reviendraient au locataire s'il en avait un. C'est le propriétaire qui se paye tout ça. Il y a un petit avantage, c'est que le fisc tolère qu'on les déduise des revenus imposables. Si on dit, voilà, pendant 3 mois, mon logement était vide, j'ai payé des charges copropriété que j'aurais dû répercuter à mon locataire, j'avais pas de locataire. Si on peut prouver qu'on en recherchait activement un, le fisc tolère qu'on puisse déduire cette somme des revenus fonciers. Donc ça veut dire qu'il coûte pas tout à fait la même somme puisqu'on va pouvoir les déduire, économiser l'impôt dessus. C'est une tolérance. C'est pas un droit. Mais c'est accepté si on peut prouver qu'on a vraiment essayé de louer. Donc je vous le dis, parce qu'il y a beaucoup de propriétaires, même à l'ULPI, qui ne le savent pas trop.
Depuis combien de temps, monsieur le président, cette tolérance? Parce que la tolérance, elle est toujours provisoire au niveau fiscal.
Oui, alors, nous, on a eu à s'y confronter depuis l'année dernière, puisque vous savez que c'est parti d'un système. Un jour, on a décidé en France de réduire le nombre de tranches d'imposition et de réduire le taux d'imposition. Mais pour que l'État gagne autant d'argent sur la fiscalité, il a été décidé de supprimer pour les salariés l'abattement de 20% et il a été décidé de supprimer pour les propriétaires l'abattement de 14%. Ça ne faisait pas l'affaire. Il a aussi été décidé pour les propriétaires de supprimer la CRL qui était à 2,5%. Ça ne faisait encore pas l'affaire. Donc il a été décidé pour les propriétaires que les charges déductibles seraient des charges réelles, honoraires d'avocat ou autres frais qui n'étaient pas auparavant. Pour les petits frais de bricole, il y a un forfait qui a été institué de 20 euros par lot, jamais revalorisé depuis. Il ne faut pas écrire beaucoup de lettres pour arriver à 20 euros. Ni s'équiper en informatique, ni rien pour gérer soi-même. Et donc, cette fiscalité est partie de là. Et le fisc a dit, pour les propriétaires, pour simplifier, comme maintenant on déduit tout ce qui est des frais qui concourent à la gestion du bien, ce qu'on va faire, c'est qu'on va dire pour un immeuble en copropriété, on prend les charges de copropriété payées par le propriétaire, on déduit les charges récupérables, et la différence entre les deux est déductible des revenus fonciers. C'est-à-dire, avant, il y a des honoraires qui n'étaient pas déductibles, il y avait une assurance qui n'était pas déductible, autre chose qui était déductible. Là, l'État a dit, pour faire plus simple, on prend la totalité des charges de copropriété, moins les charges récupérables sur le locataire, et on déduit la différence. Mais il y a des charges récupérables sur les locataires qui ne sont jamais récupérées. Un locataire qui ne paye pas, il s'en va, vous ne récupérez pas les charges récupérables. Alors, l'État a admis que les charges récupérables non récupérées pouvaient être déduites du revenu foncier. Donc on dit, voilà, mon locataire, il devait 400 euros de charges, mais il n'a pas payé, il a recommandé, j'ai menacé l'huissier, il n'a pas payé. On dit, ben d'accord, donc vous avez payé pour lui, donc vous les déduisez de votre revenu foncier. Donc ça amortit un petit peu ces charges-là. Et puis, quand il n'y a pas de locataire, c'est des charges récupérables, non récupérées, puisqu'on peut les récupérer sur personne. Par exemple, la taxe des ordures ménagères, si vous n'avez pas de locataire, vous n'allez pas la faire payer à quelqu'un. Normalement, elle incombe au locataire. Donc, dans ce prolongement, l'État a admis que si on n'avait pas de locataire, les charges récupérables, non récupérées, cette fois-ci, non pas parce que quelqu'un ne payait pas, mais parce que quelqu'un n'était pas là, à ce moment-là, vous pouvez déduire des revenus fonciers. Et ça fait 2 ans. Alors, le système des sommes récupérables, non récupérables, ça a été fait au moment du changement de fiscalité. Et là, ça fait 2 ans que le fisc admet si on apporte la preuve. Donc, nous, on a tenu compte de tout ça. Et pour ça, tout à l'heure, vous avez vu dans mes tableaux, charges récupérables non récupérées. On a englobé tout ça. Tout ça.
Mais en général, 2 ans, vu l'accélération de la succession des gouvernements qui sont un peu aux abois, ça va durer ce que tu en général.
Ouais, je veux dire, on a déjà tellement de mauvaises nouvelles qui se profilent que je ne veux pas en imaginer d'autres. C'est déjà pas mal quand on nous augmente. Je vous signale quand même qu'on nous a augmenté la CSG de 2 points là, tout récemment, avec une entourloupe à la Sarkozy. C'est que l'augmentation de 2 points, ça n'a pas été la CSG. Parce que la CSG, elle est déductible. Donc quand on vous augmente de 2 points, vous en récupérez 1, grosso modo, hein, puisque vous la déduisez du revenu imposable l'année d'après. Donc ce qui a été augmenté, c'est les contributions sociales. Qui, elles, ne sont pas déductibles. Donc, les 2 points d'augmentation de 13,5 à 15,5, c'est 2 points en totalité à charge du propriétaire. Alors que si ça avait été comme avant une hausse de la CSG de 2 points, on aurait dit oui, d'accord, l'année d'après, on en récupère 1. Ben là, non, on a 2 points de plus à payer. Donc, avec toutes ces mauvaises nouvelles, au moins qu'ils nous laissent ces charges récupérables non récupérées. Ce qui est quand même assez logique, hein. C'est une dépense qu'on fait. Et si on continue de payer, par exemple, vous avez un logement qui est vide le mois de janvier, février. Vous allez bien le chauffer pour pas que ça gêne. Donc c'est une dépense, je dirais, assimilée à un entretien du patrimoine. C'est-à-dire que vous entretenez vos biens pour qu'ils restent louables. Donc, je veux dire, même si on peut discuter sur le bien fondé, on ne peut pas discuter sur le fait que c'est une dépense qui vous permet de maintenir la qualité de votre bien à louer, donc des, comme des travaux.
Comment avez-vous déterminé ces dépenses? Vous allez être obligé de prendre un contrat avec votre syndic, parce que le syndic refusera de vous donner, si vous avez 2 mois de fidélité, le syndic il vous dira, débrouillez-vous, calculez vous-même. Oui. Donc vous allez être obligé à ce moment-là de prendre un contrat auprès du syndic.
Non, non, c'est une simple règle de trois d'ailleurs, comme on fait
pour... le chauffage en janvier-février, c'est pas une chose comme moi.
Non mais, je suis d'accord, sauf que le syndic, lui, vous fait payer un chauffage en moyenne annuelle. Et d'ailleurs, vous, quand vous répercutez sur les locataires, d'ailleurs, si quelqu'un louait un logement de septembre à mai et quelqu'un d'autre de mai à septembre, il paierait les mêmes charges mensuelles. Et c'est vrai que celui qui loue de mai à septembre pourrait vous dire, attendez, je ne veux pas payer de chauffage, moi, il n'y a jamais eu de chauffage pendant la période. Il n'y a encore pas eu de contestation à ce niveau-là. Ce n'est pas dit qu'il n'y en aura pas eu. C'est pas dit qu'il n'y en aura pas eu. Donc pour l'instant, on admet que c'est linéaire et que les charges du syndic, si vous payez 1 200 € de charges au syndic sur l'année, ça fait 100 € par mois. Donc, si vous déduisez les charges récupérables non récupérées, que ça soit en janvier ou en juillet, vous déduirez vos 100 €. Et là, le fisc ne conteste pas. Mais c'est vrai qu'on pourrait aller plus loin. C'est vrai.
Les frais que paye l'administration, vous les avez comptés aussi?
Non, les frais de rôle, par exemple, qu'on ne récupère pas sur les ordures ménagères, ben, ça me fait partie de mes 10% de frais de gestion.
Vous n'avez pas compté non plus pour noircir encore le tableau les frais d'agence de remise en location l'année où votre locataire
s'en va. Oui, alors ça, j'ai introduit dans les 10% de frais de gestion parce que je pense qu'on peut négocier mieux que 10. On peut négocier 7, 6,5, plus 2,5 d'assurance loyer impayé. Donc on n'est pas tout à fait à 10. Donc si ça me prend en disant vous en avez promis, j'ai dit je vais être plutôt un peu moins. Voilà. Donc j'ai essayé d'être vraiment le plus raisonnable du plus raisonnable. En introduisant tous ces éléments. Pour qu'on ne puisse pas contester mes chiffres, ils sont déjà tellement noirs, comme vous dites, que je n'ai pas besoin d'en rajouter, et comme ça, je n'enlève pas de crédibilité à mon étude. On a bien tout noté, tout l'argent qui sortait de nos poches, croyez-moi.
Excusez-moi, parce que il y a 4 ans, 5 ans, le calcul aurait été maître, ou alors effectivement, il aurait été moindre.
Alors, le calcul aurait été très différent, puisque déjà sur les travaux, ça aurait été moins cher, les assurances étaient moins chères, les taxes foncières étaient beaucoup moins chères, la fiscalité était moins élevée, puisque là, il y a eu la création de la tranche à 41, on parle de la tranche à 45.
Combien moins cher
les taxes foncières vous avez 22%, je crois que ça a remonté en 4 ans. Donc, on voit que toutes les dépenses, toutes nos dépenses ont augmenté. Écoutez, la GRL, on était à 1,8 pour les contrats groupés, maintenant on est à 3,5. Voilà. Donc, si vous voulez, toutes nos dépenses progressent très rapidement. Donc il y a quelques années, c'était encore supportable. Je ne vous parle pas de la TVA qui est quand même passée de 5,5 à 7, hein, on la prend quand même. La TVA qui pourrait passer à 21 et quelques, ben, on va la prendre aussi parce qu'on achète aussi des produits à 20% de TVA, on paye des prestations à 20% de TVA. Ça aussi, on va le prendre. Il y a quoi? La CSG. La CSG, vous avez un tableau à la fin, d'ailleurs qui est assez édifiant. Alors, est-ce qu'on vous fait faire un peu de gymnastique? Allez, on va jusqu'à la page 21. Tiens, voilà. Oh, il est génial. Regardez la CSG, mine de rien. Voici des propriétaires dont rien n'a changé dans leur mode de fonctionnement. Rien. Qui n'avaient pas, là, cet impôt. On leur a enlevé aucun impôt. On leur a enlevé aucune charge. On en a plutôt ajouté des diagnostics, des taxes foncières qui évoluent, le tri sélectif qui amène des dépenses supplémentaires, qu'il faut implique de faire des locaux pour pouvoir mettre des poubelles et tout. Tout ça, on aura plutôt rajouté des choses. Et puis, on s'est mis à leur faire payer la CSG. Or, pour les salariés, quand ils ont payé la CSG, ils avaient des diminutions de charges sur les salaires. Il y avait des compensations. Nous, propriétaires, on ne nous a rien enlevé. On est quand même passé de 0, là, juste avant le 1, à 15,5. 15 point de fiscalité, si on admet que la fiscalité des propriétaires à l'époque était à peu près à 40-50%, quand on vous ajoute 15 points en quelques années, ça veut dire qu'on fait une augmentation de 30 à 40% de la fiscalité, comme ça. Un propriétaire qui était propriétaire là avant 91, il payait tous les autres impôts, il payait comme tout le monde, mais celui-là, il ne le connaissait pas. Et on ne lui a rien enlevé, par ailleurs, quand on a mis celui-là. Et ça, par rapport, madame, à la question que vous posez, voilà une évolution de la fiscalité qui est claire, mais jusqu'où ça va aller, ce truc-là?
C'est déductible de l'ISF,
non? Non, elle est déductible, pour une partie déductible des revenus. Pour une partie, la CG vous payez, pour une partie déductible des revenus l'année suivante.
Elle est l'ISF?
Non, pas l'ISF. Enfin, si. Elle est déductible de l'ISF puisque c'est une dette que vous avez. Et l'année où vous déclarez l'ISF, vous dites « Ah, je déduis mon patrimoine de la CSG que je vais payer le mois prochain, puisque c'est de l'argent que je n'ai plus, c'est de l'argent que je dois à l'État. » Mais comme toutes les dettes qu'on a vis-à-vis de tout le monde. Hein. Mais il n'y a pas un avantage particulier, un régime particulier pour la CSG. Mais quand vous voyez, enfin, je ne sais pas, supposez qu'un des salariés, on ait dit, entre l'année 90 et aujourd'hui, eh ben, on vous prend 15% de plus sur vos cotisations. Mais les gens, ils seraient devenus fous, ils auraient tous été dans la rue. Alors, ça a peut-être été le tort des propriétaires, peut-être le tort de l'UNPI qui n'était pas assez vigoureuse à l'époque. C'est que là, on aurait dû hurler. Ah, et lui dire, mais attendez, c'est pas possible, il fallait aller dans la rue, il fallait passer de 3, 9 à 10. Enfin, il y avait un moment où il fallait dire, c'est insupportable. Alors, peut-être que comme on n'a rien dit, bah, ils se disent, on peut y aller gaiement, hein. on leur en remet, les pauvres, ils plient d'eau, ils courent les chines, voilà. Et en plus, il y a un certain nombre d'éléments dans l'immobilier qui sont assez perturbateurs, c'est qu'on ne paye pas au même, et on ne paye pas au même moment. C'est-à-dire que entre votre paiement d'impôt sur le revenu, votre paiement des taxes foncières, votre paiement de la CSG, votre paiement de l'ISF, ça tombe jamais en même temps, ça c'est bien calculé hein, pour gérer sa trésorerie. Et par ailleurs, il y a des dépenses aussi qu'on paye que tous les 20 ou 30 ans. Par exemple, un immeuble, de temps en temps, pour faire la toiture. De temps en temps, pour faire la cage d'escalier. De temps en temps, il faut changer la chaufferie. De temps en temps, il faut changer un chauffe-eau. De temps en temps, il y a des travaux. Mais comme ça arrive jamais en même temps, et des fois il y a 10 ans sans rien. Donc on n'intègre pas tellement dans l'image populaire ces dépenses-là. Alors qu'il faut les planifier en moyenne annuelle, parce qu'on est obligé de les faire. Une toiture, une cage d'escalier, une mise aux normes d'ascenseur, on est obligé de le faire. Et les mises aux normes d'ascenseur, vous avez vu ce que ça a coûté, vous l'avez dénoncé dans vos journaux. Oui, mais le proprio, il la paye. Et il la paye parce que l'État lui a obligé de le faire. Alors, je ne dis pas que ce n'est pas bien de le faire. Hein. Je ne dis pas qu'il faut éviter les accidents dans les ascenseurs. Mais je dis simplement que cet argent que le propriétaire met pour mettre aux normes son ascenseur, c'est de l'argent qu'il n'a pas pour lui. C'est de l'argent qui ne rentre pas dans sa poche. Et c'est dans le modeste forfait de travaux qu'on a mis. Et on l'a mis très faible. Hein. Les travaux, on a mis très faible. Vous savez, ceux qui s'en tirent à ce niveau de travaux sur la détention d'un bien pendant 20 ou 30 ans, ils ont de la chance. Ils ont de la chance. D'ailleurs, j'ai lu un article là, qui disait que les travaux, ça peut aller jusqu'à 2000 euros par an en moyenne. Et c'est vrai que quand il faut refaire un coup les peintures entre deux locataires, ça va vite. Ça va vite, ça va même très vite. Donc voilà pour ces impôts nouveaux qui font que on est moins bien loti qu'il y a quelques années et que ça décourage un certain nombre de propriétaires. Alors si on continue, on va comparer nos revenus fonciers avec les autres. Ce dont je vous parlais tout à l'heure. Alors, c'est la page 12. Voilà, vous allez comprendre vite. Hein. On est parti sur 20 000 euros parce qu'on voulait une somme un peu ronde. Alors, évidemment, ce n'est pas les 20 premiers 1000 euros d'un contribuable. C'est un contribuable qui a déjà des revenus et il y a 20 000 euros qui viennent s'ajouter en supplément hein, pour faire le calcul. Ce n'est pas les 20 premiers. D'accord. Donc, si vous prenez les revenus de loyer, on a vu ce qui restait. Donc, on a fait la même chose pour les dividendes. Hein. Donc, on est parti de 20 000 euros de dividendes. Et voilà, vous êtes à la banque, vous avez des actions, vous avez des obligations, et vous avez 20 000 euros de revenus. Ben, vous devez payer des frais divers, qu'on est estimé à 10% sur les transactions boursières, sur les frais de garde et tout type. Les prélèvements sociaux, on est obligé de payer, aussi à 15,5. On paye l'impôt sur le revenu, mais alors là, il y a quelques petites subtilités, puisqu'il y a un abattement de 8 000 euros, il y a un abattement fixe annuel, il y a les frais de gestion qui sont déductibles, donc on en a tenu compte. Donc on arrive au revenu imposable, 8 475 euros. On a toujours notre taux d'impôt sur le revenu de 30%, 2 500. Donc on voit qu'il reste en net, dans la poche de l'actionnaire, 13 597 euros, plus du double de ce qui reste dans la poche du propriétaire. Alors quand on me dit que c'est le même régime de fiscalité, moi ça me fait bondir, vous comprendrez, plus du double. Alors maintenant, si vous regardez les salaires, ben, si on prend les salaires bruts sur 20 000 euros, on a pris 25% de cotisation sociale. Si vous regardez les feuilles de paye, c'est à peu près ça, l'histoire de plafond, de sous-plafond, sur-plafond, mais on est à peu près dans les 25%, hein, donc c'est à peu près juste. Les prêts professionnels, c'est une réduction forfaitaire de 10% pour les prêts professionnels qu'on a mis. Je sais que pour les journalistes, c'est légèrement plus, mais pour les salariés du privé, c'est 10. Mais tant mieux pour les journalistes. Donc le revenu imposable est 13 000. On a pris toujours nos 30% de fiscalité. Donc il reste en net dans la poche du salarié 9 000 euros. Et ça, ce sont des calculs qui sont incontestables. Il n'y a pas un centime d'euro d'écart. Alors dites-moi, c'est pas 25, c'est 26. Dites-moi, ok, d'accord, mais ça ne change rien. Ça veut dire que, entre trois catégories de revenus, alors évidemment, celui qui va bosser, il faut qu'il y aille tous les jours. Alors, celui qui gère un patrimoine immobilier, il faut aussi qu'il s'en occupe. Hein. Ce n'est pas de l'argent en dormant. Donc il a aussi du boulot. L'actionnaire, il n'est pas très pris quand même pour s'occuper de ses actions. Enfin, le sûr des trois, c'est quand même peut-être lui qui est le moins perturbé intellectuellement, physiquement et autres. Il stresse peut-être plus au moment de certaines crises, mais autrement, c'est quand même pas... Bon, mais regardez quand même ces écarts. Alors tout à l'heure, quand je vous disais, ben, moi j'aimerais bien qu'on rééquilibre ça, et rééquilibrer, ça ne veut pas dire taxer plus l'immobilier, le foncier. Rééquilibrer, ça veut dire au contraire qu'il faut regarder de près et voir que l'immobilier, c'est plus... Alors après, s'enchaîne le même genre de calcul, je ne vais pas trop vous relever la vie avec ça, puisque c'est simplement, vous fait varier les taux pour avoir quelques autres exemples. Mais on va arriver au tableau de synthèse, hein, comme ça, si les tableaux intermédiaires, vous les regardez, vous pourrez. On va arriver au tableau de synthèse, qui est le tableau, voilà, page 20, voilà. Ah, il est projeté, bien. Donc, si vous regardez donc, toujours nos trois catégories, le propriétaire, l'actionnaire et le salarié, donc on est parti avec l'impôt sur le revenu à 30, à 41, 41, 45, selon ce que nous annonce. Et puis, vous voyez ben, chaque fois quels sont les revenus qui restent à l'individu. Et on s'aperçoit que dans tous les cas, c'est quand même le propriétaire qui, à partir d'un niveau de revenu, hein, on est parti sur 20 000 euros, mais peu importe, quand même le propriétaire, il a 32, 26, 24, 23, l'actionnaire 67, 63, 60, 61, et le salarié 45, 38, 36, 35. Donc, quand on veut rediscuter en France d'une fiscalité équitable, plus juste, alors, il y a un problème, hein, c'est que le salarié, ben, il peut travailler ou être au chômage. Mais s'il est au chômage, il faut le payer. Le propriétaire, ben, il est bien scotché en France et ses revenus sont payés en France et il ne peut pas trop partir. Lui, il est mobile. Donc on a l'impression qu'on n'est pas dans la justice fiscale, qu'on n'est pas dans l'équité, qu'on n'est pas dans la répartition. Mais ce qui est sanctionné, c'est la mobilité ou pas la mobilité. Là, on commence à mieux comprendre ce qui se passe dans la tête de nos dirigeants. Ben, si vous pouvez mettre votre fric ailleurs, on est sympa avec vous. Puis si vous êtes coincé, ben, on vous massacre. C'est à peu près ça. Je trouve que quand on parle de justice fiscale, d'équité, on est quand même loin du compte. Alors, derrière, on vous a mis la liste, deux pages plus loin, de tous les impôts et taxes que paye un propriétaire sur la vie du bien qu'il détient. Donc, de l'acquisition à la cession du bien, ils nous ont inventé, au fil des temps, 41 taxes ou impôts.
La taxe sur l'équipement de la Savoie.
Oui, c'est une taxe qui fait quand ils ont voulu mettre en place des EPFL, ils l'ont fait généraliser. Mais tout ça, c'est toutes des taxes qu'on peut payer quand on détient un patrimoine immobilier. Je veux dire, on est quand même dans la folie. Et j'ai entendu que on nous a parlé encore hier dans la création d'une nouvelle taxe, ah oui, pour les exilés ou les expatriés, je sais pas, une nouvelle taxe encore.
Mais est-ce que vous ne mettez pas les taxes sur l'eau, ni de raccord de...
Alors on pourrait mettre les taxes à l'électricité.
Parce que vous êtes obligé, ou alors vous vivez sans eau, sans électricité.
Oui,
sans...
c'est le locataire qui paye, les consommables.
Mais pour les résidences secondaires.
Oui, en revanche, il y a une chose que je n'ai pas mis, c'est que tout à l'heure quand je vous disais sur 12 000 euros de loyer, il me reste 3 000 euros dans ma poche. Avec mes 3 000 euros, je vais acheter des biens sur lesquels je vais payer encore 21% de TVA. Donc il faudrait que j'en enlève encore un cinquième, hein, si je sens ce que je dépense en net. Et encore, il ne faut pas que j'aille acheter des carburants avec. Donc voilà, on est matraqué vraiment de tous les côtés. Et donc, qu'est-ce qu'on propose, nous, l'UNPI, par rapport à cela? Déjà, la première proposition, c'est stop, arrêtez. Voilà, on sait qu'il y a un effort de redressement pour le pays, on sait qu'il y a des choses à faire, mais arrêtez, n'en mettez plus, on ne peut plus. Voilà, vous allez décourager tout le monde. Donc déjà, arrêtez, vous avez besoin d'argent, regardez ailleurs, mais arrêtez de regarder sur les propriétaires, quoi. Il y en a marre. Arrêtez de nous assimiler aux revenus financiers. Nous, nous n'avons rien à voir avec les revenus financiers. Arrêtez de nous assimiler avec les salariés. Nous n'avons rien à voir avec les revenus des salariés. Nous sommes une catégorie de revenus à part. Il faut arrêter de nous assimiler. Alors, comme les revenus financiers, vous l'avez bien vu, payent moins que les salariés, c'est facile pour les politiques de dire bah, il faut taxer les revenus financiers, puis glisser dans les revenus financiers les revenus immobiliers. Mais ça, c'est une supercherie. C'est une malhonnêteté. C'est vraiment inacceptable. Donc nous, on dit... Arrêtez de nous en mettre plus. Alors après, il faut nous en mettre moins. Et pour nous en mettre moins, on n'est pas fous. On sait que l'État français n'a plus d'argent. On sait qu'il faut trouver des économies. On sait que l'État ne veut pas trancher dans ses dépenses. On sait que l'État ne veut pas faire un certain nombre de réformes qui pourtant seraient nécessaires. Donc, il va bien falloir composer avec. Donc, la première proposition qu'on fait, c'est de redonner de l'argent à l'État. On dit terminé. Tous les régimes spécifiques d'aide, toutes les aides à la pierre, parc public, parc privé, c'est terminé. Je ne sais pas si vous avez regardé une excellente émission sur Capital. Il se trouve que c'était un promoteur dijonnais qui était interviewé et qui disait, voilà, moi quand je fais un immeuble à Dijon, mon prix de revient au mètre carré, c'est 3 000 euros. Prix de revient. Et on m'oblige à faire 20% de logements sociaux que je dois vendre à 1 800 euros du mètre carré. Donc, comme je vends à 1 800 euros du mètre carré, les autres, je les vends à 3 600 euros du mètre carré pour retrouver ma marge. Il y a un autre promoteur qui a été interviewé, un Bordelais, qui était assez politique, me semble-t-il, qui a dit « Non, moi, quand je fais du logement social, je rogne sur ma marge. Mmh. » Bah, écoutez, s'il fait à 1 800 en rognant sur sa marge, bravo. Mais enfin, je dis, à un moment, la malhonnêteté, ça a ses limites quand même, quoi. Donc, je veux dire, on sait très bien que parce qu'il faut vendre des logements moins chers, on en vend d'autres plus chers. Oui, quand c'est un investisseur qui investit là-dedans, il a un concurrent qui a payé 1 800 mètres carrés, qui peut donc louer moins cher, puis lui, il est de l'autre côté en ayant payé 3 600, c'est sûr qu'il loue plus cher, mais ça lui a coûté plus cher, et on vient encore le fiscaliser. Donc nous on dit toutes ces aides, là, tous ces coûts tordus, tous ces systèmes, arrêtez, et vous allez faire une économie. Vous voyez, on est simple. Alors après, proposition numéro 2, parce que ce qu'on économise, on récupère quand même. On dit voilà, vous nous avez quand même beaucoup grugé en nous supprimant l'abattement forfaitaire pour les frais, l'histoire des 20 euros par lot, mais on se moque des gens, quoi. C'est pas sérieux. Nous, on voudrait qu'on revienne à un abattement forfaitaire de 15% sur les revenus qui engloberait toutes les petites dépenses dont vous parliez, les taxes, les ceci et cela, donc qui simplifierait la vie. Proposition numéro 3, l'amortissement. Puisque l'État veut nous taxer les plus-values, puisque l'État ne veut pas tenir compte de la revalorisation du bien, Enfin, je ne sais pas si vous avez fait les calculs, mais un bien qui a été acheté il y a 25 ans, prendre son prix d'achat comme base de calcul de la plus-value, même si on met 15% pour les travaux, même si on met 7% pour les frais d'acquisition, je veux dire, c'est quand même lamentable. Enfin, ce n'est pas normal, c'est anti-économique. On devrait l'actualiser au moins de l'indice du coût de la construction ou de l'indice du BTP ou je ne sais pas quoi, mais le prix devrait être valorisé. Alors, puisque l'État ne veut pas, ok,
il y a
au moins, il faut qu'il se pratique un amortissement, puisque s'il veut nous lancer dans le schéma de...
Il y a une proposition de loi du Sénat pour l'actualisation, pour le calcul de la plus-value, l'actualisation suivant l'érosion monétaire. Et le calcul est simple, je ne sais pas s'il est passé, hein, parce qu'il y a quelques mois, mais je pense qu'il est en train de passer.
Il y a beaucoup de gens
mais d'ici, on va plus loin, parce que si ça passe, ça veut dire que la valeur sur laquelle le fisc peut contester quelque chose pour la vente et l'achat d'un bien immobilier, c'est celle-ci. Ça veut dire qu'on ne va pas nous chercher sur les prix excessivement hauts qui se pratiquent sur le marché immobilier. Là, oui, ça changerait tout. Mais il existe ça, cette démarche, la loi qui existe.
Nous,
la proposition de l'ordre.
Nous l'avions demandé, c'est assez logique, ça m'étonnerait que ça passe. Enfin, quoique l'État va quand même voir qu'avec sa taxation des plus-values, vous vous rappelez, il a dit 2 milliards de recettes. Après, il a dit 1 milliard 2, 1 milliard 3. Bah, allez observer le nombre de transactions, allez regarder, et puis vous verrez s'il va faire son milliard 3. Il ne le fera pas, voilà. Et donc, je me pose souvent la question, je me dis, est-ce que les hauts fonctionnaires se mentent à eux-mêmes, ou est-ce qu'ils sont incompétents à ce point? Bah, dès qu'ils ont dit qu'ils allaient plus taxer les plus-values, tout le monde, vous, nous, on a dit qu'il y aura moins de transactions. Bah, je sais pas, c'est un peu logique. Le type qui dit, moi, j'ai 8% d'abattement de 25 ans à 30 ans, si je suis à la 25e année, j'ai peut-être intérêt à attendre 3-4 ans pour vendre, d'arriver à la fin. Et celui qui est au début, il dit, ça vaut pas le coup de vendre, je vais tout donner, enfin, 35% de ma plus-value à l'État. Donc ça le freine, s'il peut faire autrement, il faut autrement. Donc c'était bien évident qu'il allait avoir moins de transactions. Donc ceux qui ont fait des calculs en disant, compte tenu des transactions qu'il y a chaque année, voilà la recette que ça va faire, c'est où ils sont vraiment mauvais, ou ils sont profondément malhonnêtes. Parce que ça veut dire qu'ils équilibrent un budget avec une recette qu'ils savent qu'ils n'auront jamais. Ça veut dire qu'en disant qu'ils luttent contre le déficit en mettant en place cette mesure, ils savent qu'ils vont malgré tout faire du déficit. Parce que cette mesure ne rapportera pas ce qu'ils estiment. Et ça, vous l'avez dit, nous l'avons dit, beaucoup d'observateurs l'ont dit. Alors pourquoi qu'à Bercy, on ne l'a pas entendu ? On se pose vraiment des questions de fond sur la compétence ou sur l'honnêteté. Ah, pose la question. Proposition numéro 4. Donc, mise en place d'un plafonnement de la hausse des taxes foncières, vous ne découvrez pas, c'est une mesure qu'on vous avait indiquée quand on a montré notre observatoire des taxes foncières. Il est vrai que ça, c'est un système très pervers, puisqu'on vous dit d'un côté la fiscalité nationale n'a évolué que de ceci ou de cela, puis d'autre côté, comme on décentralise et qu'on ne donne pas les moyens aux collectivités, elles viennent nous reprendre ça par le biais de la taxe foncière. Je veux dire, on a là un système qui est très pervers et qui coûte cher aux propriétaires. Frédéric vous donnait les évolutions de la taxe foncière, et de mon point de vue, ce n'est pas terminé. Encore des mauvaises nouvelles. Donc si on pouvait plafonner à l'inflation, à la hausse des prix, à l'évolution des loyers, à je ne sais pas quoi, mais qu'il y ait un système qui rende les collectivités locales, donc conseils généraux et communes, puisque ce sont les deux maintenant qui prélèvent la taxe foncière, qui les rendent un peu sérieux, vertueux et raisonnables. Et la dernière proposition, ça c'est pour l'anecdote, mais puisqu'il y en a qui reparlent de l'ISF, de remonter l'ISF, de maintenir l'ISF, on pense que tout ce qui est location à caractère social, donc conventionné avec l'ANA, ça devrait quand même être sorti de l'ISF. On est là en comparaison avec le parc public. Le parc public ne fait pas d'ISF. Donc des propriétaires qui font l'effort de louer à des loyers modérés à des personnes à revenus modestes, on devrait considérer qu'ils peuvent être exonérés d'ISF. Ça ne va pas chercher loin, mais je trouve que ça serait un signe positif qui serait donné pour encourager à des loyers accessibles pour des personnes à revenus modestes. Voilà, maintenant, nous sommes à votre disposition pour toutes les questions que vous avez à poser sur le sujet. Voilà, vous avez écouté bien sagement, vous avez bien suivi page par page, donc je vous redonnerai des dossiers la prochaine fois.
Vous comparez toujours avec les revenus financiers, mais aujourd'hui, Actuellement, la bourse, par exemple, est à 20 ans en arrière. Depuis 4 ans, les revenus financiers n'ont pas cessé de baisser parce que les taux d'intérêt sont bas, donc les rendements des obligations sont faibles, et puis il y a des sociétés qui distribuent plus de dividendes. Donc, est-ce que c'est un bon argument? Enfin, le gouvernement taxe, ça c'est bien ce que vous avez dit, une taxe en sachant bien qu'il n'aura pas les rentrées, hein, parce que ça va diminuer. Mais est-ce que c'est aujourd'hui casser des revenus financiers? Pour beaucoup de gens, les gens ne veulent plus d'action aujourd'hui, ils ne veulent plus de... Ils considéraient que c'était l'immobilier qui était la seule... Parce qu'il y a le problème de la plus-value. Si vous perdez sur 20 ans dans l'immobilier, sauf si vous habitez la Nièvre, la Creuse ou quelques autres régions, il y a eu quand même des hausses des plus-values sensibles. Tandis que là, aujourd'hui, vous vous retrouvez 20 ans en arrière pour les revenus financiers. Donc les gens...
Je dirais que c'est la seule chance de l'immobilier... Et la seule chance du gouvernement, c'est que les personnes qui pourraient avoir à investir, quand elles regardent l'environnement des possibilités d'investissement, c'est vrai que même si, et comme je le disais tout à l'heure, comme l'immobilier, c'est un peu mensonger la rentabilité. Dans l'esprit, enfin, moi, je ne sais pas, si vous avez des amis qui achètent, ils comptent sur leur loyer. Ils pensent que le loyer qu'ils vont toucher, c'est l'argent qu'ils vont avoir à dépenser. Enfin, c'est presque comme ça. Et donc, les gens raisonnent de cette façon et ils espèrent toujours une plus-value. Donc, ils ont à la fois un revenu qui est fictif, qui est mensonger, et ils ont à la fois l'espoir d'une plus-value qui, de mon point de vue, commence à disparaître dans beaucoup de secteurs et qui va peut-être encore disparaître. Alors, quand ils regardent la bourse, ben, ils disent « ouais, c'est cassé la figure ». Seulement, aujourd'hui, ceux qui regardent la bourse, moi, je dis « voilà, il faut qu'ils se posent deux questions ». Le CAC, 3003, 3004, 3000, bon, on l'a connu à 7-8000. Oh non, allez, d'accord. Donc au moins le double. Donc ça veut dire que celui qui se dit je ne suis pas complètement pessimiste, tout n'est pas foutu en France et dans le monde, un jour ça reviendra, un jour ça repartira. Donc, est-ce qu'il aurait pas intérêt à faire confiance justement à la bourse? Deuxièmement, quand on dit le niveau de la bourse, moi j'observe des portefeuilles qui sont mis dans des revues spécialisées. Bah, vous savez, il y a des sacrés allers-retours à faire. Hein. Et ceux qui sont assez astucieux, et notamment des gérants de portefeuille, et notamment des fonds de pension américains, avec la bourse qui s'est cassée la figure, ils ont plutôt gagné de l'argent. Hein. Alors moi, j'ai suivi une action récemment qui s'appelle Crédit Agricole. Dire, elle a des écarts d'un euro. Donc celui qui s'est bien mis dans la bonne dent de scie, alors s'il a contre-sens, ça c'est vrai que ça coupe et ça fait mal. Mais s'il a bien compris le petit jeu de yo-yo qui se passe, je vous garantis, il y a des transactions tous les jours. On n'est pas une bourse qui n'a pas de transactions. On est une bourse qui a des transactions. Donc ça veut dire qu'il y a des gens qui aujourd'hui gagnent de l'argent. Et regardez les fonds de pension américains, regardez des fonds de retraite, ils gagnent de l'argent. Donc le CAC n'est pas le révélateur suffisant. C'est-à-dire qu'avec un CAC constant, il y a des gens qui gagnent de l'argent. Voilà. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est l'espoir. Alors, c'est vrai que les Français, ils sont un peu terriens, ils sont un peu pierres, ils sont un peu... Voilà. Puis la bourse, ils ne connaissent pas trop, c'est un peu fictif. D'ailleurs, on dit investir en immobilier, puis on dit jouer en bourse. Et ces expressions populaires, ce n'est pas un hasard si on dit ça. Donc, comme les Français, ils sont plutôt les pieds sur terre à investir, bah, ils se disent, attends, si j'achète un appart, bon, le loyer, le machin, tout ça. En plus, la bourse, on ne peut pas en faire à crédit. L'investissement immobilier, on peut le faire à crédit. C'est d'ailleurs assez étonnant, puisque un établissement bancaire qui vend ses propres actions, il ne vous prête même pas pour les acheter. Alors qu'il vous prêtera pour acheter un appartement. C'est quand même étonnant, il doit avoir confiance en lui-même. Non, ça ne marche pas. Bon. Donc, ce que je veux dire, c'est que là aussi, ceux qui veulent, par exemple, préparer une retraite, il dit, je peux investir dans l'immobilier. Bon, avec le loyer, ça m'aide un peu à payer le truc. Et puis après, j'aurai mes revenus en complément de retraite. Donc, on voit bien que toute cette culture-là existe fondamentalement en France. Et donc, l'État joue là-dessus. Donc, même à rentabilité proche de zéro ou zéro, bah oui, il y a des gens qui ont du mal à se défaire leur patrimoine immobilier en disant, ouais, mais l'immeuble au coin de la rue, là, je l'ai quand même. Si j'ai des actions à la bourse de je ne sais pas où... qu'est-ce que ça va devenir? Donc, c'est sans doute ça qui fait que l'immobilier tient encore.
Si votre calcul, justement, avait intégré l'effet crédit, on ne serait pas du tout sur les mêmes taux de rentabilité, puisque dans ce cas-là, on partirait du capital réellement investi.
Oui, mais.
Avec un TRI.
Oui, mais on partirait aussi sur les intérêts d'emprunt. Rentabilité. Et on partirait sur l'amortissement du capital qui égorge complètement la trésorerie. C'est-à-dire qu'on a aujourd'hui des propriétaires qui n'ont même pas de quoi rembourser le capital des emprunts. Le capital est un enrichissement, on est d'accord. Mais je veux dire, les intérêts d'emprunt, ils sont déductibles, donc ça change un peu la donne. Sauf que le capital, il faut retrouver la trésorerie. Et quand vous avez payé tous vos impôts, toutes vos charges et tout, même en déduisant les intérêts, vous n'avez pas le cash, l'argent pour rembourser le capital. C'est d'ailleurs pourquoi on a vu beaucoup de financements infinis et autres, avec les dénouements que l'on sait ou que l'on craint. Et parce qu'on était coincé sur le plan de trésorerie. D'ailleurs, on voit, nous, des propriétaires qui investissent pour dire « il faut que je fasse des travaux, il faut que je fasse des frais, parce que sinon, je ne vais pas y arriver en trésorerie. » Parce qu'ils peuvent emprunter, hein, grâce à l'investissement, et donc ça perd la trésorerie. Donc c'est un peu une course en avant. Mais on n'a pas voulu l'intégrer, parce qu'on a dit « au combat, voilà, à équivalent. » Mais c'est vrai que ça change.
Et pour revenir sur, excusez-moi 30 secondes, sur ce que disait monsieur, sur la comparaison entre l'investissement immobilier et l'investissement financier. Il y a deux manières d'envisager. Soit on fait de l'investissement financier spéculatif, et à ce moment-là, on redonne à court et moyen terme, et on veut s'enrichir à court et moyen terme, et à ce moment-là, l'investissement immobilier n'est pas comparable véritablement avec ce genre d'investissement. Si on regarde l'investissement financier à long terme, c'est une autre manière de voir, et souvenez-vous des courbes qui ont été faites, des statistiques qui sont parues à l'époque de l'an 2000, la rentabilité des placements financiers sur un siècle, quelqu'un qui prend des placements financiers en 1900 et qui les conserve jusqu'à l'an 2000, transmission, etc., la rentabilité annuelle, 6,5% net par an. Il n'y a pas photo. Il faut simplement conserver son patrimoine et le gérer en bon père de famille.
Et l'acheter au bon moment.
Oui. C'est caché il y a 3 ans.
Non, ça a intégré toutes les crises, y compris la crise de 29. Vous la rentrez dans le 19e.
Il y avait une grosse inflation aussi.
Et ça demeure encore, quand on regarde les statistiques de rentabilité des placements financiers, on est encore supérieur à l'immobilier.
Il y en a certains qui ne versent pas de dividendes cette année, là, ça veut dire.
Excusez-moi, si je peux me permettre un commentaire, vous appliquez au placement financier un raisonnement de gestionnaire de patrimoine immobilier qui n'a pas lieu d'être, sincèrement. Les gens qui font vraiment, qui font des placements financiers, ils bougent leur argent en permanence en fonction de l'évolution des cours. Sincèrement, hein, les vrais, ils font ça toute la journée. C'est d'ailleurs le niveau des traders, quoi. Voilà.
Ouais, mais voilà, il y a deux choses. Si vous dites le particulier achète des cigales ou des fonds communs ou autres, vous avez raison. Mais il y a beaucoup d'épargnants qui ont d'épargne financière, un contrat d'assurance vie, qui ont un placement, plan d'épargne logement, machin, tout ça, qui ont des livrets de caisse d'épargne, qui ont quelques obligations, qui n'ont pas forcément beaucoup d'actions, je suis d'accord, mais qui, eux, font ça en placement de longue durée, en placement préféré, et notamment chez nos propriétaires. Sinon, on les voit, nos propriétaires, vous savez, ils ont tous une 100, 120 000, 150 000 euros qu'ils mettent à la banque. Le banquier leur explique qu'aujourd'hui, c'est le plan d'épargne à long terme, c'est le machin, c'est le truc qui est le mieux, et ils y touchent pas. Alors après, il y a les spéculateurs. Je ne crois pas qu'ils soient très nombreux.
Sur les 6 millions d'actionnaires, leur portefeuille est celui qui a le taux de rotation le plus bas de tous les acteurs de la bourse. Donc les investisseurs particuliers ne
bougent pas.
C'est très curieux parce qu'ils ont une attitude qui n'est pas en adéquation avec les mécanismes
de ces machins. Oui, c'est exact. C'est exact. Alors, ils font de la bourse comme on fait de l'immobilier.
Voilà,
c'est une erreur.
C'est pas la même grille de fonctionnement. Je voudrais faire quelques remarques concernant vos chiffres. Tout d'abord, quand vous dites que ça s'applique à quelqu'un qui a un revenu supérieur à 26 420 euros, pour la rigueur de l'exercice, ce serait bien de dire par part.
Oui.
On est d'accord.
C'est-à-dire
que si c'est un...
On a mis partout célibataire.
Et si c'est un couple avec deux enfants, vous savez bien que ça fait 70 000 euros.
Oui.
Vous voyez, à 30% on parle de ces gens-là. Hein.
Non, mais on a voulu prendre le revenu marginal, la tranche marginale.
D'accord, mais on est sur ces revenus, on est d'accord.
Exact.
Ensuite.
Mais l'exemple est donné avec un célibataire.
On n'est pas tous célibataires.
Parmi les gens qui ont établi ma place. Ensuite, quand je regarde le tableau, bon, page, ils sont tous identiques, exemple 1, exemple 2, voilà. Donc, je prends l'exemple 1, peu importe. Je trouve que vous avez pris les chiffres les plus favorables possibles à vos démonstrations. Je veux dire, vous n'êtes pas la
Mais prenons un autre chiffre, si vous voulez.
Non, mais ce que je veux dire, hein, simplement, si je les prends un par un, typiquement, hein, 300 000 euros, alors je sais bien que tout le monde n'est pas parisien, mais 300 000 euros, c'est typiquement un deux pièces parisien, loué 1 000 euros par mois, ça fait beaucoup.
Mais attendez, mais à Dijon, ça fait 2 F5 loués à 500 euros par mois.
D'accord.
Donc on n'est pas sur la valeur d'un seul. Hein?
D'accord. Mais c'est vrai que mettre ça à 1800 euros, enfin, je veux dire, 1800 euros de taxes foncières.
C'est la moyenne nationale de taxes foncières par rapport au loyer.
15%.
C'est la moyenne nationale. À Paris, vous êtes à 7 ou à 6. Seulement, il y a des secteurs en France où ils sont à 18. Donc on a pris la moyenne.
Je rappelle qu'on a un observatoire de taxes foncières qui est assez précis, dont on publie les statistiques tous les ans au mois de novembre, quand on parle de taxes, et on a une vision très précise, avec d'ailleurs les avis d'imposition de nos adhérents, département par département, l'évolution des taxes foncières. Donc, et on est en moyenne à 15%. Mais Paris et Neuilly sont très diminués.
Non, mais c'est vrai que ce n'est pas forcément dans les villes où les loyers sont les plus
élevés
que la taxe foncière est la plus pénalisante.
Oui, c'est vrai. Mais on a pris les moyennes.
D'accord. Par ailleurs, alors, si vous l'avez dit tout à l'heure, le propriétaire, il s'active, c'est pas comme celui qui a des
actionnaires
financiers. Voilà. Alors, deux choses, une. Ou bien vous vous activez et auquel cas vous n'avez pas de frais de gestion, ou bien vous donnez à gérer. Je veux dire, ça c'est une prestation. Je veux dire, vous n'êtes pas obligé de. Enfin, je veux dire, on peut tout mettre.
C'est pas parce que vous donnez à gérer que vous vous activez pas. Je veux dire, vous êtes quand même le responsable final de la relation locative. C'est quand même vous qui faites la déclaration de revenus. C'est quand même vous qui devez savoir si vous faites des travaux ou pas. C'est vous qui devez suivre vos travaux. C'est-à-dire que même si vous déléguez votre gestion locative, ce qu'on a mis dans les 10%, avec l'assurance et tout, ça ne vous empêche pas de vous en occuper. Enfin, moi, je peux vous assurer que je suis propriétaire et que je délègue une partie de ma gestion locative. Eh ben, je suis quand même appelé un dimanche matin parce qu'il y a un problème de fuite d'eau dans un immeuble et ainsi de suite. Je m'active. Alors qu'il se trouve que j'ai un peu d'argent à la banque, ils m'écrivent pour me prélever mes frais de gestion, puis ils m'envoient mon IFU pour que je fasse ma déclaration. Le reste, donc quand je dis s'active, c'est vrai, s'active plus.
Non, mais ce que je veux dire, c'est que...
On n'a pas compté de frais d'activité. On a compté les frais de gestion, mais pas de frais d'activité.
Non, mais ce que je veux dire, c'est que pour le propriétaire, avoir recours à un gestionnaire, c'est pas confort. Il pourrait très bien s'en passer, ce que je veux dire.
Voilà. Oui, mais attendez, s'il s'en passe, il faut qu'il achète un logiciel, il faut qu'il ait un ordinateur, il faut qu'il fasse des déplacements pour aller louer.
Mais c'était ça le choquant. Non, mais... C'est pas qu'on est plus choquant lorsqu'on gère
ça. Oui, voilà. Si on met l'abattement à 15%, on veut bien mettre 5 au lieu de 10. On est d'accord.
Par ailleurs, je
suis... Il va se casser la voix.
Excusez-moi, est-ce que dans ce que vous avez mis dans les chartes, il n'y a pas des choses qui sont déductibles du revenu foncier?
Si, elles sont toutes déduites d'ailleurs. On les a toutes déduites. Ah, vous avez mal vu là.
Ce sont des chartes déductibles des revenus fonciers qu'on met là.
On les a toutes déduites. Tout ce qu'on a mis en charge, c'est déduit du revenu. Regardez, on part de 12 000.
On part de 12 000.
On a toutes les charges, on arrive à 7 002.
7 002 de revenus imposables.
7 002. Auquel on applique les impôts. On applique les impôts qu'à 7 002, c'est après avoir déduit tout ce qui est déductible. Voilà, elle n'est pas bonne celle-là.
Pas le problème.
Ah non, mais il est bien du charrier.
Non, mais c'est vrai qu'en fait, si on cherche soi-même, ça applique tous les ennuis qu'on peut avoir. Comme dit le vigilant, s'il y a une fuite au milieu de la nuit, il faut plus. Ça n'a pas de problème.
Alors, voilà. Et si on gère soi-même, on a intérêt à adhérer à l'UNBI. Et si on adhère à l'UNBI, ça coûte déjà plus de 20 euros par an. C'est désolant, mais c'est comme ça.
Et pour reprendre l'argument sur la gestion par soi-même ou par une déléguée, je peux vous assurer, j'ai suivi deux copropriétés qui veulent tous se débarrasser de leur syndic. Je peux vous assurer que c'est de l'activité. Parce que pas tout seul.
Non, mais je parle de la gestion. Vous parlez de la copropriété.
Non, mais on parle de la gestion.
Ça n'a rien à voir.
Ben, je vais vous parler d'une autre personne que je suis là également. Elle a un syndic qui lui facture tous les trois mois. Les... Elle a un mandataire, la déléguée ça. Et tous les trois mois, elle a de prélever sur ses loyers les frais de diagnostic.
Il y a quelques anomalies, mais pour en revenir à ce qu'on disait quand même.
Il faut aussi surveiller ce que font les mandataires.
Non, mais est-ce que vous n'avez pas l'impression d'avoir forcé le prêt?
Non. Non, vraiment, je vous assure, pour éviter ce genre de remarques que je savais possible, on a vraiment pris des moyennes et on a vraiment pris plutôt bas. C'est-à-dire que si vous faites sur une longue période, demander aux gens du bâtiment, la CAPEB et tout, les travaux qui sont faits sur des logements, enfin, je sais pas, il y a des exemples tout simples. Les cages d'escalier dans les immeubles, ça se refait tous les 12 à 15 ans. Ça devrait plutôt se refaire tous les 10 ans. C'est tous les 12 à 15 ans. Quand vous êtes copropriétaire d'un immeuble et qu'on fait la cage d'escalier, bim, vous payez votre part. Les façades, quand on fait les façades, vous payez votre part. Les chaufferies, pour les faire régulièrement, vous payez votre part. Les toitures, pour les faire régulièrement. Les gouttières, pour les faire régulièrement. Le zinc, ça ne dure pas éternellement. Donc, quand c'est pas déductible, c'est déductible.
Non,
les
mais
travaux.
Ça participe à la valorisation du bien.
Non, c'est justement ça, le mauvais raisonnement. C'est vous changez vos gouttières aujourd'hui de votre immeuble là. Vous dites, ah oui, ils vaut plus cher. Bah, d'abord, vous ne
prenez pas les deux.
Mais 15 ans après.
Vous ne changez rien et l'appartement.
Ah ben, ils vont zéro. Non. Ah, d'accord, on le laisse en ruine. Ah, ben, cette fois-ci, il faut compter un gros amortissement. Mais je veux dire, quand vous faites une toiture, si vous vendiez l'immeuble le lendemain, peut-être vous le vendriez un petit peu plus cher parce que la toiture est bonne. Mais si vous le gardez 20 ans ou 30 ans, ben, dans 20 ans ou 30 ans, vous recommencez votre toiture. Quand vous faites la cage d'escalier, vous faites la cage d'escalier, puis 10 ans après, vous avez des traces de pneus dans les trucs, parce qu'il y en a qui a monté son VTT parce qu'il a peur qu'on lui vole, et puis vous repayez votre cage, et ça, ce sont des dépenses que vous engagez qui ne changent rien. Quand vous remplacez un chauffe-eau dans un logement, c'est 600 euros un chauffe-eau, et vous payez 600 euros, et ça ne change rien la qualité de votre logement. Donc on a un peu tort en disant, par exemple, quand on me dit, vous mettez du double vitrage, ah ben oui, mais ça améliore la qualité de votre logement. Si je ne le vends pas, alors ça baisse un peu les charges pour mon locataire, oui, mais si moi je ne le vends pas, ça ne me change rien. Si je le vends, peut-être, et encore.
Et si vous transmettez, vous transmettez aussi quelque chose qui a une valeur. Hein.
Mais ça me donne mais toujours pas d'argent pour vivre.
Non, mais ce que je dis, ces dépenses-là, c'est des dépenses, il y a 20 ans, c'est pour les mêmes.
Les dépenses de valorisation du patrimoine.
Oui, mais là, non, c'est le maintien. Après ça, le maintien. Le maintien du patrimoine, je suis d'accord. Valorisation,
non.
Faut être juste dans les raisonnements. C'est pas de repeindre des cages d'escalier, de refaire des logements, de changer quelques équipements intérieurs. Par exemple, aujourd'hui, celui qui a une douche avec une réglette électrique et puis un rideau de douche, il n'aura plus. Alors il va faire une belle salle de bain, c'est 10 000 euros à peu près, faire une salle de bain. Alors on va me dire, oui, il a valorisé son bien.
Non.
Ouais, sauf que dans 15-20 ans, il va dire, voilà, et puis de toute façon, les douches, il n'y en a plus autrement. Donc il a maintenu un niveau. Il a maintenu un niveau, je suis d'accord. Mais dire qu'il a valorisé, je ne crois pas. Alors évidemment, si on met un ascenseur dans un immeuble qui n'en avait pas, sans doute qu'on le valorise. Sans doute. Là, c'est vraiment un gros équipement. Mais autrement, non.
Une question qui prolonge justement à propos des chiffres. Je ne vois pas quelle est l'influence de la valeur du bien sur cette fiche. Parce que si je mettais ici 2 millions, la fiche serait la même.
Non.
Sauf.
Pas l'ISF.
Oui, oui.
Pas l'ISF.
Non, non, mais justement, parlons-en, parce que ici, il est vrai que tout ça s'amplifie parce qu'on vit dans une société avec un code fiscal qui vous impose une valorisation de votre bien dont vous, donc là les 300 000 si vous dites qu'on intègre l'ISF, mais justement cette valeur n'est pas fixe, donc autrement dit elle est supposée augmenter chaque année, ce qui est complètement faux.
Donc
ça apporte de l'eau à votre moulin.
Je vous en ai parlé au niveau de la vacance, je vous ai dit on l'a mis avec un taux de vacance, mais ça n'a rien à voir. Ouais. On s'en fiche, la valeur du bien, le taux de vacance et tout, ce qui compte c'est de partir du loyer qui est encaissé par le propriétaire. Voilà. À la limite,
même si c'est pas
12 000 euros, pour répondre à notre avis, les 12 000 euros ça serait pour une chambre de vol. Ça ne change rien.
12
000 euros. Et si c'est 2 et 5 à 10 ans, ça ne change rien. C'est toujours 12 000 euros de revenus fonciers. Voilà. On a simplement mis une valeur pour avoir une base, pour faire quelques simulations. Mais ça n'a rien à voir. Ce qui compte, c'est partir d'un loyer et voir ce qui reste. Le loyer qui provient de ci, de ça, de ça, de ça. Voilà. Tant mieux s'il y en a qui louent les studios, 12 000 euros par an.
Et finalement, le fonds de lanceur, c'est de dire la fiscalité, elle augmente
sans cesse.
Nous, les propriétaires, on a la fiscalité qui augmente, mais en plus, il faut qu'on entretienne notre bien. C'est un peu normal d'entretenir un bien, c'est notre problème.
Non, de fournir un bien de la qualité qui correspond au marché, d'ailleurs, je vous ai même dit. Qu'il fallait faire plus de travaux et que les entreprises du bâtiment, elles feraient mieux faire plus de travaux d'amélioration, de rénovation et d'entretien que de construire là où il n'y en a pas besoin. Donc moi, je suis tout à fait d'accord pour qu'on améliore la qualité de nos biens, pour qu'on améliore ses performances. Ce que j'ai dit simplement, c'est que ça, on ne pourra plus le faire, puisqu'il ne nous reste rien quand on encaisse nos loyers. C'est ça, parce qu'il y a une fiscalité excessive. Et que cette fiscalité, je crains qu'elle augmente encore. Et si vous avez bien écouté ma conclusion, le premier point, j'ai dit stop. Stop. Puis après, j'ai dit, est-ce qu'on peut pas réorganiser un peu derrière? Parce qu'on ne pourra plus... Vous savez, des gens qui sont propriétaires, à part le Duc, qui sont à 5, 6 euros du mètre carré, quand vous leur appliquez ça, je leur dis que pour aller faire des travaux, il leur reste rien. Alors comment ils vont améliorer leur bien? Comment ils vont tenir la valeur de leur patrimoine? Comment ils vont offrir des logements de qualité aux locataires? Il y a un moment, ils diront, on baisse les bras, on laisse tomber. Parce qu'ils ne pourront pas, c'est même pas qu'ils ne voudront pas, mais ils ne pourront pas. Parce que si vous avez acheté un logement et que vous dites, voilà, ça me fait un petit complément de retraite, c'est bien. Et puis si vous vous dites, là, j'ai déjà 10 années de loyer qu'il faut que je mette en travaux. Alors vous vivez avec quoi? Vous mangez avec quoi? D'ailleurs, c'est ça le vrai problème des propriétaires.
Oui, mais vous parlez des propriétaires en général, ou vous parlez du propriétaire dont vous venez de parler plutôt en province, parce que finalement, les propriétaires ne sont pas les mêmes à Paris.
Le problème, c'est que jusqu'à preuve du contraire, en France, on n'a pas les régions d'Allemagne, on n'a pas les États des États-Unis, et on a une fiscalité unique. Il est vrai que quand je demande une mesure générale, elle peut profiter à certains. Mais je m'élève contre les mesures générales qui pénalisent certains. Parce qu'aujourd'hui, parce qu'il y a quelques propriétaires sur l'Île-de-France qui gagnent bien leur vie, qui sont dans un bon contexte, qui ont dégagé les plus-values, soit dit en passant, quand on met la taxation des plus-values avec effet rétroactif 30 ans en arrière, je trouve ça assez scandaleux, hein, parce qu'on taxe de la plus-value dégagée à un moment où il est exonéré. Bon, ça c'est une parenthèse en passant. C'est comme si on disait à un salarié, tiens, tes revenus d'il y a 20 ans, là je te les retaxe, je ne te les avais pas assez taxés. C'est ça qu'on fait avec la plus-value quand même. Je vous le signale. Le propriétaire, il a besoin d'argent, on veut bien encore. Et je veux dire, c'est vrai que ça peut favoriser quelques propriétaires. Alors,
quelques-uns ou beaucoup? Parce que c'est quoi la proportion des bailleurs en France qui sont en Île-de-France?
Il y en a plus en province qu'en Île-de-France. Il y a 10 millions d'habitants en Île-de-France et il y en a quand même 50 millions dans le reste de la France. Donc on voit bien qu'aujourd'hui, cette fiscalité générale, nationale, il y a des marchés qui sont différents les uns des autres. Comme on veut fabriquer une fiscalité différentielle, il faut éviter de faire mourir des gens. Mais de la même manière qu'il y a la sécurité sociale, parce qu'il y a des malades, ceux qui sont en bonne santé, ils payent pour ceux qui sont malades. Oui, c'est vrai qu'il y a un certain nombre d'éléments comme ça. Il y a des gens qui travaillent, puis il y en a qui sont au chômage. Mais c'est pas pour ça qu'on va dire, comme il y en a qui travaillent, les chômeurs, regardez-vous, vous n'aurez rien. Donc je crois qu'il faut des mesures assez justes. Et aujourd'hui, les mesures qui sont prises, elles sont trop prises justement par rapport au marché parisien. On a l'impression que nos députés, qui pourtant sont toute la France, ne vivent que par Paris, ne connaissent que Paris, ou alors prennent prétexte de Paris pour pouvoir justifier un certain nombre d'attitudes qui, d'ailleurs, lorsqu'ils sont en aparté avec nous, ne justifient plus du tout. Quand vous êtes avec un député dans le train qui va, à Marseille ou à Dijon ou à Lille, le député vous dit « Oh là là là, c'est pas possible, c'est taxé, machin, ma femme a deux appartements qu'elle gère, Madame Repentin, quatre appartements à Chambéry, oh là là là, là j'arrive plus. » Monsieur Repentin, l'USH, il dit pas ça. Allez, c'est le dernier coup de palette.
Est-ce que c'est possible de faire un peu de